J'ai posé quelques questions à Nicolas Frise, musicien, il y a quelques semaines, sur son parcours, sur son rapport au son, et plus particulièrement au son de son quartier.
Je m'appelle Nicolas Frise, voilà, je suis compositeur, j'habite dans le 10e arrondissement. Je fais de la musique plutôt dite contemporaine, j'aime pas beaucoup ce mot parce que c'est de la musique actuelle et contemporaine, ça sous-entend une certaine difficulté dans l'écoute, alors que c'est pas le cas du tout pour ce qui concerne mon travail. Non pas qu'il est facile à entendre, mais que je fais en sorte que les gens qui le rencontrent aient été associés le plus en amont possible pour en comprendre les tenants, les aboutissants, et qu'ils n'arrivent pas de façon trop brutale sur les choses. Et quand on arrive doucement sur les choses, elles sont toujours belles, enfin elles sont toujours faciles. Ce qu'il faut, c'est éviter la brutalité. Voilà, alors sinon, j'ai beaucoup travaillé sur les questions d'environnement sonore urbain depuis très longtemps. J'ai fait une grosse étude qui s'appelait Étude des références culturelles du bruit et de l'audition, qui fait 1000 pages. J'ai fait un assez gros programme sur l'écoute de l'environnement sonore pour l'éducation nationale, et plusieurs programmes avec des villes comme Marseille, comme Arras, comme Lyon, comme Saint-Denis surtout, et qui a consisté en fait à faire des prises de son qualitatives, des relevés qualitatifs des espaces, et non plus des relevés quantitatifs comme le font les autres, pour essayer de mettre en valeur des choses qui me paraissent intéressantes, et surtout pour permettre à des gens de réfléchir à ces questions de qualitatif. En fait, quand on pense au son, soit on n'y pense pas, soit on y pense de façon négative, quoi. L'idée, c'est de se dire, n'oublions pas alors on peut continuer de s'indigner si on veut, mais nous n'oublions pas de nous émouvoir. Et donc l'objectif, c'était de créer les conditions pour que des gens se mettent à réapprécier ce qu'ils avaient oublié d'apprécier, à savoir des petits secrets qui se cachent là, ça et là dans leur parcours de vie, qu'ils soient professionnels ou personnels, ou voilà. Et puis de goûter aussi, d'arriver à écouter loin, d'entendre loin, c'est une chose auquel je tiens beaucoup. Et puis d'essayer de se laisser aller aussi entre l'audition et l'écoute, c'est-à-dire entre fait entendre et écouter, c'est pas pareil. Et c'est très bien d'entendre sans écouter, mais c'est parfois bien d'écouter sans entendre, c'est-à-dire d'être parfois sur le sens, parfois sur la sensation, parfois sur les contextes ou sur les références ou sur l'histoire des choses ou sur leur usage, mais parfois aussi sur leur esthétique, sur leur gratuité, parce qu'en fait écouter les sons, en gros, c'est quand même écouter les sources, c'est-à-dire écouter les gens. Et donc ceux qui n'écoutent pas, par là, ils n'écoutent pas les gens. Et d'ailleurs, à l'époque, il y a 30 ans, quand vous n'étiez pas tous panés, il y avait ce qu'on appelait la lutte anti-bruit. Et moi, je m'étais beaucoup battu au sein du ministère de l'Environnement pour qu'on arrête avec ce mot, parce que les bruits, c'est toujours les autres. Et donc une lutte anti-bruit, ça veut dire une lutte contre les autres. Et comme par hasard, ce sont les gens les plus en difficulté économique qui font plus de bruit que les autres, parce qu'un robot ménager, un rasoir ou une deux chevaux bon marché, c'est beaucoup plus bruyant qu'une Safrane, je ne vais pas faire de marque, mais, ou que des objets qui sont coûteux. Et de même que habiter dans un immeuble en pierre de taille, c'est pas pareil qu'habiter dans un HLM avec des parois un peu épaisses. De même que c'est pas pareil d'avoir un ou deux enfants ou d'en avoir cinq ou six. Donc comme par hasard, le bruit n'est pas seulement une chose, les sons ne sont pas une chose comme ça, qui sont au-dessus du monde, comme ça, qui sont un espèce de rêve poétique et contemplatif. Ça nous parle de choses qui sont très concrètes, qui sont la vie publique, la vie sociale, la sociologie, qui sont évidemment, on a la musique à l'autre bout, tout l'aspect musical qui est formidable, mais avant ça, on a des questions de répartition des espaces entre nous, de qui bénéficie de quoi, qui se déplace comment, qui n'a pas le choix, qui a le choix. Et puis aussi viennent se mêler à ça des alors c'est ce que l'étude avait un peu recherché, des difficultés de formaliser les choses. On a du mal à nommer les sons, et souvent on voudrait les nommer d'une façon technique, alors que ce serait plus intéressant de les nommer de façon métaphorique, c'est-à-dire de dire par exemple elle ria comme un éclat de verre, ou le bruit des vagues sur les rochers, on a l'impression que c'est un applaudissement. Et donc, si on pense à l'applaudissement et qu'on entend ça, on se dit effectivement c'est très proche de ça. Donc, du coup, cette capacité comme ça, poétique, esthétique et sensible de nommer les choses autrement, nous permet de les écouter autrement. Donc, il y a ce problème de vocabulaire qui est grave et qui fait que tant qu'on ne nomme pas les choses, on a du mal à les entendre, ou en tout cas à les goûter, ou à les cerner. Et après, il y a cet aspect que je disais, l'aspect social, c'est effectivement, il faut avoir envie que les autres existent. C'est quand même une sorte de base. Et puis, Et puis après, il y a des références culturelles assez fortes qui sont les religions, par exemple, qui se sont beaucoup inscrites dans un usage du son. Enfin, en tout cas, la religion judéo-chrétienne, il y a 1700 occurrences dans la Bible sur le son. Donc, c'est pas rien, parce que ça nous, même si on. Même si certains d'entre nous sont très athées ou en tout cas laïcs, c'est-à-dire pas concernés par la propagation de ces idées dans l'espace public, ça n'empêche pas que ça nous influence, parce que ça nous vient tous de là, enfin presque tous. Et finalement, on se rend compte qu'il y a dans le monde sonore ou dans l'audition quelque chose de l'ordre du mystère, quelque chose qui est de l'ordre du. D'ailleurs, les compositeurs, on les appelle maîtres. Les chefs d'orchestre aussi, comme s'ils étaient inaccessibles, comme si c'était bon. Et puis la musique, c'est toujours un mystère pour tout le monde, parce qu'on ne sait pas comment elle s'écrit, puis on voit que des gens sont en train de la lire, de l'écrire, ça nous paraît toujours incroyable. Et puis l'oreille est un organe très fragile, qui est entouré d'une zone érogène. Donc derrière tout ça, il y a un tas de fils à tirer qui sont intéressants, qui sont des choses sensibles, intimes, et puis des choses un peu sacrées, un peu mystérieuses, un peu... Voilà, donc je me dis, quand on commence à travailler sur le son, on ne peut pas échapper à toutes ces connotations, et c'est assez intéressant.
Pour des raisons techniques, l'intégralité de notre entretien n'est plus disponible. J'ai essayé de me souvenir de ses propos. Nicolas Frise habite la rue du Faubourg Saint-Martin, qui, nous dit-il, est une rue commerçante qui s'étire entre les deux pôles que sont la gare de l'Est et la porte Saint-Martin, avec en son centre la mairie d'arrondissement, l'une des plus belles de la ville selon lui. Il évoque ensuite les différents sons du quartier qui retiennent son attention. L'acoustique inédite du parking Alban Satragne, les bruits de la gare de l'Est, les voix et les odeurs de la rue Caille, les conversations aux abords des coiffeurs africains de la rue du Faubourg Saint-Denis, les portes Saint-Denis et Saint-Martin qui marquent la limite d'un territoire et sont les vestiges d'un temps ancien, d'une mémoire. L'acoustique très particulière de la rue du Faubourg Saint-Martin, un peu différente en ce moment, précise-t-il, avec les travaux de réaménagement des trottoirs et de la chaussée. Avec son revêtement au sol très bruyant et dont les parois très uniformes des façades des immeubles de la rue viennent renforcer en faisant caisse de résonance. À la question des sons qu'il aime ou qu'il déteste, les sons qui le surprennent ou dont il a la nostalgie, il évoque ensuite ces différents sons. L'incroyable éventail de résonances et de sons des pierres qu'il a utilisées, notamment dans son concert de pierre. Il en a ramené des quatre coins de France et de Carrare, triés avec soin, poncés avec art. Au moment de débuter notre entretien d'ailleurs, deux pierres accolées sur la table en marbre de son salon oscillaient musicalement. Nicolas Frise a dû les déplacer pour ne pas gêner l'enregistrement. Il s'est souvenu tour à tour du muezzin à Marrakech, par exemple, qui très tôt le matin se met à envahir l'espace dans le silence de l'aube et dont les sons se déportent de minaret en minaret. Nicolas Frise fait remarquer que, paradoxalement, cette invasion de l'espace sonore, dont le son est un grand souvenir pour lui, peut avoir un aspect prosélyte qui le dérange, comme pour les cloches des églises en Occident qui envahissent nos espaces publics et qui, selon lui, devraient être interdits. Les cloches devant servir à toute autre chose. Le souvenir nostalgique de la salle des pas perdus de la gare Saint-Lazare, qui pour le coup est vraiment perdue, car elle a été complètement réaménagée dernièrement afin de proposer désormais un passage radicalement différent, tourné vers un ensemble de commerces qu'on retrouve dans toutes les grandes villes, de manière uniforme. À l'époque, on entendait distinctement les pas des voyageurs, les conversations dans le brouhaha du passage et les départs des trains. Le souvenir émouvant d'un enregistrement sur le Mont Blanc avec un Agra, un enregistreur à bande magnétique, précise-t-il, et une perche. Du bruit feutré de la montagne, de ses skis qui glissaient sur la neige et soudain assisté au loin à une avalanche. Dans la surprise de l'événement qu'on n'attend pas, qui nous ravit. Il termine enfin cette évocation poétique par les sons lointains au Japon, liée selon lui au risque de tremblement de terre auquel sont habitués depuis toujours les Japonais, où tout est construit pour être à la fois léger et souple, et qui suppose la discrétion, la possibilité du lointain, auquel le musicien est sensible. La possibilité d'arriver à écouter loin, d'entendre loin.
Je suis issu de deux professeurs qui s'appelaient Pierre Schaeffer, qui a introduit le concept de musique concrète, c'est-à-dire qui s'est mis à écouter les bruits en leur donnant une chance d'être un jour musicaux. Et puis John Cage qui, de l'autre côté, lui, ne leur donnait pas de chance, mais forçait leur destin musical, on va dire.